Luc Fortin, bon début de journée.
Bon matin enneigé, mon Steve.
Oui, on parle de tempête. Je rappelle aux auditeurs, les commissions scolaires de la région sont fermées, mais il y en a toute une tempête présentement au fédéral.
Oh oui.
Et elle pourrait peut-être changer la donne. Revenons sur l'histoire SNC-Lavalin et l'ancienne ministre de la Justice du gouvernement fédéral.
Oui, tu sais, Steve, il y a des tempêtes qui sont pires que d'autres, hein? Il y en a qui sont vraiment historiques et peut-être que cette tempête qui secoue le gouvernement Trudeau sera historique. Déjà que ça bardait pas mal avec toute cette histoire, ces révélations de possibles pressions du bureau de Justin Trudeau sur l'ancienne ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, dans le dossier de SNC-Lavalin. Mais là, la tempête s'est levée d'un cran hier avec sa démission du cabinet de Justin Trudeau. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un bon timing pour lui, non?
Pour rappeler un petit peu aux auditeurs, là, c'est qu'il y a des prétentions que le bureau du premier ministre aurait peut-être fait pression sur la ministre de la Justice
de l'époque.
La ministre qui a démissionné hier. Et pour qu'on s'entende avec SNC-Lavalin.
Hors cours.
Et qu'on n'ait pas au criminel avec ça.
Exactement.
Et donc qu'il ne soit pas privé de contrat, par exemple, au Canada pendant 10 ans.
Alors, cette histoire-là est sortie dans les médias la semaine dernière.
Oui.
Et déjà là, ça fait couler beaucoup, beaucoup d'encre.
Mais là, elle démissionne.
Ben,
elle se pose la question, j'ai le droit de dire quoi?
Ben, c'est ça. Et là, elle consulte un ancien juge de la Cour suprême pour savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire, qu'est-ce qu'elle ne pourra pas dire. Mais c'est ça, si on revient à la question du timing pour Justin Trudeau. Écoute, déjà que les intentions de vote se resserrent entre les libéraux et les conservateurs, là, tu commences à être près de l'échéancier électoral. Aussi, on est clairement en pré-campagne. Ça vient contaminer sa pré-campagne électorale. Il y a une élection partielle présentement en Colombie-Britannique, dans Burnaby Sud, et Mme Wilson-Raybould, elle est députée de la région de Vancouver, alors ça fait couler beaucoup d'encre là-bas, ça vient contaminer l'élection partielle aussi. Alors, tous les ingrédients sont réunis pour une véritable tempête politique pour Justin Trudeau, et il le sait visiblement, parce qu'hier, il est passé à l'attaque, c'est quand même pas rien. Est sorti pour attaquer son ancienne ministre en disant « Mais comment ça se fait que si elle percevait des problèmes, elle m'en a pas parlé, elle a gardé le silence l'automne passé, puis là, bon, ça sort dans les médias, elle démissionne, alors je suis déçu, je suis en colère, mais tu sais, les perceptions sont du côté de l'ancienne ministre, sont pas de son côté. »
Il disait qu'elle n'était pas cohérente, hein? C'est un peu ça qu'il laisse sous-entendre.
Ben, tu sais, puis un petit peu le sous-entendu, c'est qu'elle est peut-être frustrée d'avoir été démise de ses fonctions de ministre de la Justice pour retrouver aux anciens combattants, mais c'est gros. Je veux dire, elle n'a pas été exclue du cabinet non plus, là. Elle est demeurée au cabinet. Elle était toujours, évidemment, une députée libérale. Alors, ça prend plus que ça pour faire une telle sortie. Et ce qui fait mal aussi dans cette histoire-là, je pense que c'est le premier ingrédient, c'est que ce n'est pas une fronde qui vient de l'opposition, qui vient des journalistes, ça vient de l'interne. Alors, c'est toujours plus crédible dans ce temps-là aussi. Les histoires sont toujours plus crédibles. Et aussi, ça cause des dommages dans tes propres rangs, parce qu'elle elle a des collègues, elle a des amis. Et puis hier, Jane Philpott, qui n'est pas la dernière des backbenchers à Ottawa, là, c'est la présidente du Conseil du Trésor, a fait un tweet pour rappeler son amitié à Mme Wilson-Raybould, qu'ils ont fait ensemble, qu'elle était convaincue qu'elle allait continuer de servir les Canadiens. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui ont retweeté ce tweet-là en disant « Ben regardez, ça parle beaucoup ce tweet-là ». Alors, comment le caucus libéral va réagir à cette histoire-là?
Et comment le pays va réagir aussi?
Absolument.
Parce que moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que de un, c'est tellement une patate chaude SNC-Lavalin, parce que oui, ils ont été accusés de corruption. Oui, il y a eu corruption dans le passé. Est-ce que tu veux mettre en péril 15 000 jobs? C'est cette espèce de questionnement-là qui existe. Mais tu ne veux pas non plus, pour un parti politique, donner l'impression que tu es derrière SNC-Lavalin.
Tu donnes des passe-droits, tu fermes les yeux sur la
à une
corruption.
Entreprise qui a eu de la corruption?
Oui, exactement. Et puis, tu ne veux pas passer pour l'ami de la grande entreprise parce que monsieur, madame, tout le monde qui arrive à une affaire de même n'aura pas de passe-droits.
Et d'un autre côté, encore plus mauvais que ça, SNC-Lavalin, il y a son siège social où? À Montréal.
Une entreprise
comment
québécoise.
Comment tu penses que ça doit être perçu en Alberta?
Déjà. Le Québec est vu comme étant l'enfant chéri du gouvernement Trudeau là, dans les derniers mois, qu'on fait tout pour le Québec. Alors, ça vient ajouter justement à toute cette dimension-là. Et l'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que Mme Wilson-Raybould, elle est issue des Premières Nations. Et là, eux autres sont pas de bonne humeur. On a déjà vu sa démotion comme une gifle. Et là, hier, le fait qu'elle soit
attaquée... On a parlé de racisme, hein?
Ben oui, qu'elle soit attaquée par le premier ministre, ça cause beaucoup de tumulte parmi les Premières Nations. Et souviens-toi, tous les efforts que Justin Trudeau a fait depuis le début de son mandat dans cette entreprise de réconciliation avec les Premières Nations, ça a un peu volé en éclats hier. Alors là aussi, il y a du dommage pour lui. Puis évidemment, ben, c'est un enjeu éthique. Alors, en politique, tu ne peux pas avoir pire que ça. Les gens vont être prêts à pardonner l'incompétence, des erreurs. Mais lorsque tu parles d'enjeux éthiques, de perception de corruption, d'intervention, de cover, de perception de cover-up, quoi que ce soit, ben là, ça pardonne pas. Ça fait mal parce que ça vient un petit peu consolider tous les préjugés, toutes les idées préconçues que les gens peuvent avoir à l'égard de la classe politique. Et puis, lorsque tu es en politique, tu es un communicateur, tu émets des messages, ben il faut que tu sois crédible, sinon les gens n'écouteront plus.
Avant même que tu parles.
Alors, ça risque de couper le canal de communication entre le gouvernement et la population. Alors, c'est vraiment pas le type d'enjeu que tu voulais avoir. Puis en plus, ben, ça vient d'une femme. Ça aussi.
C'est vrai, t'as pas tort. Oh oui.
Ça aussi, il ne faut pas le négliger.
Un autre aspect.
Parce que les femmes sont perçues comme étant plus intègres. Hein? On pense qu'on peut se le dire.
Oui, oui. Et dans puis, la perception,
ben,
tout à
oui.
fait.
Et puis là, il s'en prend à une femme. Et la clientèle féminine, on l'a vu dans le dernier sondage, excessivement importante.
C'est son pain et son beurre.
Ben, absolument. Alors, on va voir la suite des choses, mais pour l'instant, les perceptions ne sont pas de son bord.
Luc Fortin, je veux qu'on revienne. Petit clin d'œil chez nous, oui. Jeu de la francophonie. Je pense qu'il faut se préparer à se faire dire non par Québec.
Ben, en tout cas, eux autres se préparent, moi, je pense, à dire non. T'sais, je te disais que la réaction de la ministre des Relations internationales avait été un peu expéditive suite à sa rencontre avec Steve Lussier. Je t'ai dit également hier, je pense avoir bondi à l'Assemblée nationale, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu une motion hier en chambre de la députée libérale Paul Robitaille, qui est porte-parole en matière de francophonie et de relations internationales. Je vais prendre un instant juste pour te la lire parce qu'elle est vraiment pas longue. Elle dit que l'Assemblée nationale prenne acte des résultats de l'étude de faisabilité commandée par la ville de Sherbrooke sur la réalisation des Jeux de la francophonie. C'est un fait. Qu'elle prenne en considération la volonté unanime des élus municipaux de la ville de Sherbrooke d'accueillir les Jeux de la francophonie en 2021. C'est un fait aussi. Je vais rapidement tout de suite à la fin. Enfin, qu'elle demande au gouvernement caquiste de confirmer rapidement son appui financier au projet. C'était pas très contraignant. On ne disait même pas un montant, mais ça a été trop pour le gouvernement à refuser son consentement à la motion. Alors, je pense qu'on peut déjà écrire la suite de l'histoire. Oui,
mais comme tu dis, hein, surtout qu'on ne s'entend même pas sur la hauteur... On aurait pu s'engager à avoir un appui financier, ça peut être très faible. Ça
ben
peut
oui,
être 5 millions,
ça peut
être 10.
Il n'y a même pas de montant, il n'y a pas d'auteur. Ça aurait pu être la même chose que ce que le gouvernement précédent avait pris comme engagement à l'égard de Sherbrooke. Pas plus, pas moins. Non.
On ne veut pas se mettre en arrière.
Non, on veut pas du tout de pression dans ce dossier-là.
Eh bien, merci beaucoup, Luc Fortin.
Hey, à demain.
Un éclairage particulier.